10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Quel plaisir de dire que c'est l'islam au présent, comme tous les week-ends sur Beurre FM, et l'équipe de Beurre FM Week-end est sur le pont ce week-end. Déjà, l'imam Abdelali Mamoun est là. Bonjour, imam Abdelali.
Bonjour, Philippe. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Je me réjouis déjà d'avoir fait lever Ali Habibi un samedi matin. Enfin, non pas qu'il ne se lève pas, mais il ne se lève pas pour venir faire de la radio avec nous, imam Abdelali.
Je pense que c'est un lève-tôt, hein. C'est un bosseur, bah, Ali. Moi, je le connais, bosseur.
C'est bien.
C'est pas un feignant.
C'est la raison d'y croire.
Il ressemble beaucoup à mon petit frère. Je pense souvent à mon petit frère quand je le vois, lui.
Un petit côté indonésien, hein, j'ai pas dire.
Mon frère aussi part à la Umrah au mois d'avril. Radouane, tiens.
Bien, Ali Habibi est avec nous.
Il a déjà fait carton plein, lui, déjà.
Bien, alors Ali Habibi, je le présente pour ceux qui ne sont pas toujours fidèles avec nous le lundi, mais que vous connaissez bien ce Beurre FM, thérapeute du couple et de la famille. Et Ali, effectivement, l'imam Abdelali disait tout à l'heure, vous partirez en Umrah au mois de mai, imam Abdelali.
Inch'Allah.
Voilà. Oui, bonjour à tous, salam alaikum tout le monde. Donc je pars à la Umrah du 3 au 14,
ouais,
mais Inch'Allah.
Voilà, et vous accompagnerez cette Umrah avec une thématique spéciale.
Oui, le cheminement vers Dieu seul en couple et en famille. Et donc je serai accompagné d'un imam pour la référence religieuse qui s'appelle Mohamed Nadir. Et les interventions seront axées justement sur le cheminement vers Dieu, seul, en couple et en famille.
Alors, Ali, je vous explique le principe de l'émission. On démarre l'émission traditionnellement par un verbe coranique que l'imam Abdelali explique. Et quel verbe, et de quel verbe s'agit-il aujourd'hui, imam Abdelali?
Eh bien, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous allons développer le verbe itma'anna. Alors, ça se prononce un peu difficilement. Donc, c'est le verbe itma'anna de son radical itma'nan ou tuma'nina.
J'en ai connu des plus compliqués à prononcer. Hein,
imam Abdelali, c'est parce qu'il y a la lettre Hamza au milieu, le fameux A qui est un peu compliqué à prononcer. Itma anna, yatma innu tmi'nanan. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, ce mot-là, ce verbe-là, du moins qui est dans le Coran à maintes fois répété, signifie s'apaiser, chercher ou trouver la quiétude, la sérénité, le bien-être, la tranquillité. Tout ça, ce sont des synonymes de ce itmi'nan qui est une source de bonheur pour chaque individu dans ce bas monde. Et souvent, il y a beaucoup de quêtes, il y a beaucoup de manières de rechercher cette quiétude. Et beaucoup vont utiliser différents moyens pour l'atteindre. Par exemple, vous allez avoir ceux qui vont aller pratiquer le yoga, il y en a qui vont pratiquer le sport, il y en a qui vont pratiquer la danse ou écouter de la musique. Chez les musulmans, cette quiétude, elle est trouvée, elle est recherchée à travers la pratique religieuse. Voilà, et donc...
Alors justement, en quoi la pratique religieuse nous permet-elle d'atteindre cette béatitude, imam Abdelali?
Eh bien parce que Dieu lui-même, quand il nous a légiféré ces pratiques, il nous fait part, dans le Coran, mais aussi dans la tradition prophétique, qu'elle est source d'apaisement. Dès le début, au moment de l'appel à la prière, le croyant, avant même d'être interpellé pour venir faire la prière, Dieu lui dit que viens à la béatitude, viens chercher cette félicité et ce bien-être qu'il y a dans la prière. Quand il dit « Hayya ala al-falah », après dire « Hayya ala al-salah », viens à la prière, il dit au muazzin, le muezzin, hein, le fameux celui qui fait l'appel à la prière, il dit aux gens, dit venez à cette béatitude, à ce bien-être qui vous comblera de bonheur, c'est-à-dire à cette prière collective à la mosquée. Et donc c'est déjà une manière de nous informer que la pratique religieuse est une source de béatitude. La iqama, hein, le fameux préambule à la prière, hein, qui précède ce fameux petit appel à la prière, iqamatu salah, le prophète sallam, quand il interpellait Bilal, quand il demandait à Bilal d'inviter les croyants à déclencher la prière, il disait pas déclenche aqimis salat ya Bilal. Il lui disait arihna biha ya Bilal, réconforte-nous, accorde-nous cette quiétude, déclenche la prière qui va nous accorder cette béatitude, ce bien-être, cette quiétude que l'on retrouve dans la prière, ce qu'on appelle ce itmi'nan, qui est même une injonction. Il faut le savoir que le itmi'nan est un des piliers centraux de la prière. L'itmi'nan est un rukn min arkan as-salah, en tant que règle normative avant même de parler de spiritualité, avant même parler de concentration, avant même parler, eh bien déjà, le musulman qui n'est pas dans cet état de quiétude et de cet état de sérénité dans la prière, eh bien qu'il sache que sa prière n'est pas valable. Ça veut dire que déjà, au moment des postures, quand il est dans ses postures, il doit être imprégné de sérénité et de itminan. Quand il va s'incliner, il ne peut se relever de son inclinaison que seulement s'il relâche ses muscles totalement. S'il procède à une pratique excessivement rapide de sa prière, de manière à ce que constamment ses muscles restent tendus tout au long de la prière, eh bien cette prière est invalide. Elle n'est pas valable. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu constater l'entrée d'un compagnon dans la mosquée. Cet homme a prié, mais a prié avec une vitesse comme une poule qui picore. C'est-à-dire, il faisait les inclinaisons et les prosternations comme de la même manière que picore une poule ou un coq. Donc le prophète lui a dit, repars, va faire ta prière, car tu n'as pas fait la prière. Il a dit, Rasoulallah, j'ai fait la prière. Il a dit, non, ce que tu n'as fait, ce n'est pas la prière. Repars et va faire la prière. Il est reparti, il a refait la même chose, avec la même vitesse et la même rapidité. Il n'a pas respecté cette béatitude, cette sérénité, ce itminan nécessaire au moment de chaque posture. Et il a donc pratiqué cette prière comme la poule qui picore les grains. Et là, encore une fois, une deuxième fois, le prophète lui dit, va refaire ta prière, car tu n'as pas fait la prière. Et encore une fois, une troisième fois, il va lui dire encore une fois. Et à la fin, il lui dira, l'homme, il dit, ya Rasoulallah, je ne sais faire la prière que de cette manière-là. Explique-moi. Alors le prophète lui dira, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ قْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Il lui a dit, quand tu rentres dans la prière et que tu es debout, récite quelques versets du Coran, notamment sourate al-Fatiha et une sourate qui va avec. Et ensuite, incline-toi jusqu'à que tu sois dans un état de sérénité. Ensuite, relève-toi jusqu'à que tu sois en état de sérénité. Ensuite, prosterne-toi jusqu'à que tu sois en état de sérénité, etc. Et ainsi de suite, il a dit, fais ainsi tout au long de la prière. Donc le itminan, cette sérénité, cette quiétude, cet apaisement de l'âme et du corps est une obligation pour chaque croyant et qui doit s'engager dans la pratique religieuse. Mais aussi l'apaisement, on la trouve à travers la concentration, ce qu'on appelle en arabe al-khushu'. Hein, le Dieu lui-même dans le Coran, quand il définit les croyants qui seront dans la béatitude, qad aflaha al-mu'minun, qu'est-ce qu'il dit? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ce sont ceux qui sont dans leur prière pleins de concentration, de plénitude, de sérénité et de tranquillité. Mmh. On ne peut jouir des bienfaits de la prière que si on est dans cet état de béatitude et de plénitude dans la prière. Mmh.
Alors, il y a d'autres états hein, pour...
Oui, bien sûr.
Justement,
je voulais laisser un peu la parole à notre invité, parce qu'il a beaucoup de choses à dire.
Bah, il est comme moi, il vous écoute, Imam Abdelali.
Alors, je vais continuer, si vous voulez. On va parler des pratiques, des bonnes actions. Les bonnes actions sont aussi indispensables. On ne peut pas parler d'adoration divine si on n'est pas associé à une bonne action. Mais je vais quand même laisser la parole à Ali. C'est toi qui me...
Prenez-la, Ali, parce que sinon...
Je vous la prenez pas.
Il vous la rendra pas jusqu'à 11h.
Fatima, elle était moi que je lui ai donné la parole et là, on n'a pas voulu. Donc je l'ai repris.
Merci beaucoup.
Et je la redonne. Allez, je suis généreux, mais il n'y a pas de problème. On aura le temps de développer, Inch'Allah.
Non, mais Inch'Allah, c'est vrai qu'en plus t'étais lancé, on était captivé. Donc c'est pour ça qu'en même temps on préférait rester silencieux.
Moi je suis resté sur l'image de la poule, hein, c'est pour ça.
Il y a des gens. Il y a même un imam turc qui est réputé pour sa vitesse.
Mais vous m'avez montré une vidéo la dernière fois où la prière TGV,
on appelle ça.
Voilà, il a enchaîné la prière.
C'est du n'importe quoi.
C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours enseigné ou bien enseigné ou sur laquelle on met du temps vraiment à éduquer, parce que souvent quand on enseigne soit aux enfants ou soit aux adultes qui rejoignent la pratique, quand on leur enseigne les rites religieux, que ce soit la prière ou autre, on leur donne les règles, les conditions, les obligations, ce qui est très bien, mais on oublie une des choses qui est fondamentale, c'est ce que vient de dire l'imam, c'est cette concentration et cet apaisement qui est recherché. Et à partir du moment où vous faites les choses convenablement et que vous prenez le temps de les faire comme il se doit, vous avez cette satisfaction dans le sens où cette béatitude ou cette quiétude que tout le monde recherche, on la retrouve. On la retrouve. Alors c'est intéressant dans le hadith qui a été cité tout à l'heure, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit justement que ça soit debout, incliné ou prosterné ou assis, de faire en sorte d'attendre que les muscles se détendent. Il y avait même un autre hadith sur les os qui disait que les os se mettent en place, etc. Donc c'est-à-dire que faut plus qu'il y ait de mouvement en fait. Faut que la personne soit posée. Mmh. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, ce qui va se produire, c'est que le corps va se stabiliser. Et on sait que quand on fait des mouvements beaucoup trop rapides, vous savez, c'est comme la levée du lit. Quand vous, il y a un hadith, par exemple, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se levait pour la prière ou du fajr ou la prière de nuit, quand il se levait du sommeil, il s'asseyait sur son lit quelques instants avant de se lever. C'est-à-dire qu'il ne se levait pas d'un coup. Il ne se levait pas d'un coup, il prenait le temps. Et vous voyez ça, on pourrait dire, certains diront non, mais j'ai pas le temps, c'est trop lent, etc. Alors que c'est nécessaire.
C'est plein de bon sens.
Ça a été prouvé scientifiquement. Exactement. Il y avait des dangers de se lever
trop rapidement. Donc il y a des dangers vitaux, il y a des dangers pour la santé. Mais un, on évite les dangers en faisant ainsi. Et de deux, on permet justement au corps de se stabiliser. Parce qu'un mouvement trop rapide n'est pas bon pour le cerveau, n'est pas bon pour certains organes, etc. Et donc, quand vous voyez que juste pour la levée du lit, quand on se réveille, qu'il faut juste s'asseoir quelques instants avant de se lever complètement, que dire de la prière où justement on a cette pratique, ou même les autres rites, où on doit prendre le temps. On doit prendre le temps parce que c'est aussi une rencontre. Dans la salat, on est dans une rencontre avec Dieu. On est dans un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on le précipite, c'est qu'on n'a pas pris conscience qu'on est dans un dialogue avec Dieu, en fait. Et le fait de ne pas se précipiter, c'est aussi le fait de prendre le temps d'analyser, de réfléchir et de trouver cette paix qu'on peut rechercher. Oui, que ce soit par le corps, par l'esprit ou par la foi.
C'est la présence, comme le dit Ali, ce dialogue qu'il y a entre l'homme et Dieu, ce rappel, c'est ce lien intime, cette salat, c'est là que l'homme il a dans sa prière qui réalise et qui concrétise cette béatitude. Dieu dans le Coran, il dit « Alladhina amanu » ceux qui ont cru « Wa tatma'innu qulubuhum » et leur cœur s'apaise par l'évocation, par le rappel de Dieu. Ala bi dhikrillahi, dit Dieu tout de suite après. C'est certes par ce rappel, par cette évocation du nom de Dieu et ce lien que l'homme il a avec Dieu, anna bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, que s'apaise les cœurs. Dieu nous le dit dans le Coran. Cherchez là cette béatitude. Ceux qui sont à la recherche du bonheur, du bien-être, et Ali va bien en parler mieux que moi, parce qu'il est plus psychologue que moi dans ce domaine-là, mais il y a beaucoup de gens qui...
Je vous le confirme, hein, il est beaucoup plus psychologue que vous.
Mais je suis d'accord.
Sur le papier.
Cette qualité, dans le comportement, dans la parole, dans le papier, tout ce que tu veux. Ali, c'est la béatitude par excellence. Donc c'est pour ça qu'il est là.
Non, c'est pas plus, parce qu'il y a l'expérience.
Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont partir avec lui. Parce que je sais que c'est ce que je voulais dire justement. Beaucoup de gens aujourd'hui dans la vie, dans leur quotidien, sont totalement imprégnés de stress, d'angoisse, de mal-être, d'état de voilà, ils sont constamment...
D'anxiété, voilà.
C'est l'anxiété au quotidien. Et Allah Azza wa Jal qui nous a fait don de cette prière... C'est un don, il faut pas le voir comme un fardeau, comme une charge. Quand Allah Azza wa Jal a révélé au prophète qu'il allait lui accorder 50 prières qui sont devenues 5 prières, mais dont la récompense reste 50 prières, eh bien, cela a été fait parce que le prophète était dans un état d'angoisse et d'anxiété incomparable. Il a dit, tu as besoin de cette prière pour justement retrouver cette quiétude et cette béatitude. Pourquoi il était dans l'angoisse? Son père, son oncle vient de mourir. Sa femme est morte. On appelle l'année de la tristesse. Il monte à Taïf. Il est accueilli à coups de bâton et à coups de pierre. Il est ensanglanté partout. Il est dans le petit jardin réfugié de Ibn Rabi'a. Il lève les mains au ciel. Il dit, Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati. Oh mon Dieu, je me plains auprès de toi de la faiblesse de ma force. Je suis impuissant face à tout ce rejet et
tous ces événements
qui m'accable et qui me met dans cet état d'anxiété et d'angoisse. Ya Rabbi, donne-moi quelque chose. Anta Rabbi wa anta Rabbul Mustad'afin. Tu es mon Dieu et le Dieu de toutes les personnes qui sont affaiblies, qui sont humiliées et qui font l'objet d'humiliation. Ya Rabbi, ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta Rabbi wa anta Rabbul Mustad'afi ila man takiluni, à qui tu me confies, je voudrais que c'est à toi que je sois confié. La takilni ila ghayrika tarfata 'aynin wa la aqalla min dhalik, nous dit le prophète dans nos doigts, il faut pas que tu nous confies à quelqu'un d'autre si ce n'est toi, parce que tu es la source de miséricorde, tu es la source de béatitude, tu es la source de bonheur. Donc ya Rabbi, c'est ce que le croyant fait quand il est dans la prière, et il trouve grâce à cela ce calme, cette béatitude et cette sérénité.
Bien, en tout cas, Imam Abdelali, beaucoup nous disent que quand ils sont sur les lieux saints, de toute façon, il n'y a plus du tout de stress, ils sont très apaisés.
C'est le Coran qui le dit lui-même. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Celui qui rentre dans ces lieux-là, il retrouve la quiétude, la sérénité et la paix. Amina. C'est le summum de la quiétude.
Et la paix, c'est pas forcément la paix dans le sens où on a des ennemis et qu'on est en guerre. Ouais, la paix, c'est déjà la paix intérieure.
Ouais,
c'est la paix avec soi-même, la paix par rapport justement à toutes ces angoisses ou ce stress ou ces inquiétudes qu'on pourrait avoir. Et ce qui est aussi intéressant dans tout ce que vous venez de dire, c'est que, parce que certains qui sont bloqués parfois et quand on dit par exemple que le prophète a été triste à Sattwa Salem ou qu'il a connu par exemple des moments de stress ou d'angoisse, on peut réagir en disant mais comment on peut dire ça du prophète à Sattwa Salem, alors que pas du tout, c'est pas une honte ni une faiblesse de dire. Au contraire, c'est ce qui nous rapproche aussi de lui, parce que au-delà du fait que ça soit la meilleure des créatures, c'est un homme et un être humain, et le fait qu'il ait vécu aussi ces émotions là nous montre que ces émotions sont juste naturelles en soi.
Elles sont humaines.
Et qu'il a donné derrière, par son histoire, des solutions pour pouvoir justement s'en sortir.
Je suis qu'un être humain comme vous, dit le prophète.
Bien, Ali, chaque semaine, l'imam Abdelali nous raconte un personnage. Alors cette semaine, c'est le personnage, et je vous donne comme indice que c'est l'homme qui était à la quête de l'apaisement du cœur, puisque c'est le sujet de ce matin. On en parle dans un instant.
L'islam au présent revient dans un instant. Heures, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau ce samedi matin Ali Habibi qui est avec nous. Alors Ali, je vous explique, toutes les semaines l'imam Abdelali nous raconte l'histoire d'un personnage qui est soit connu, soit moins connu. D'ailleurs aujourd'hui celui-là il est très connu pour le coup.
Oui, effectivement. Et j'ai choisi
patriarche des prophètes.
Finalement c'est pas vraiment moi qui ai choisi ce personnage, c'est Ali, c'est notre invité. Et je vais un petit peu parler du personnage, mais je vais surtout laisser la parole à Ali pour qu'il nous en parle mieux. Parce qu'effectivement, c'était un homme qui était constamment à la quête du bonheur, à la quête de la béatitude et de la quiétude, et notamment celle du cœur. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était un être humain. C'est un homme avec toutes ses faiblesses que peuvent avoir un être humain. Mais surtout, c'était un être humain qui était seul. « Inna Ibrahim kana ummatan » dit Allah. Dans le Coran, il dit qu'il était à lui tout seul une umma. Pourquoi ? Parce qu'il était le seul musulman. Même son propre père était un idolâtre qui fabriquait même des idoles. Quand il dit « Il قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين » Oh mon père Azar, je te vois te consacrer à un culte de ces idoles. Je te vois toi et ton peuple dans l'égarement. Que fais-tu, oh mon père ? Adore Dieu le Créateur qui est au-dessus des cieux, et ne te rabaisse pas à ces cailloux que tu fabriques toi-même de tes propres mains. Hein, il le rappelle, il est constamment, mais malgré tout, il est quand même dans l'embarras, parce qu'il sait qu'il détient la vérité, mais qu'il voit que tout le monde est contre lui, et donc effectivement, ça crée chez lui une certaine angoisse. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire des exercices. Il va s'exercer à cultiver cette quiétude. Donc, premièrement, il va regarder le ciel. Il va dire, oh, bah, tiens, regarde, il y a une étoile. Bah, ça va être mon Dieu. Puis après, elle disparaît. Il a dit, moi, je n'aime pas, ces étoiles qui disparaissent. Il a ouhibboul afilin. Il va voir la lune. Oh, cette lune, elle est belle. Elle est grande. Je vais en faire mon Dieu. Et là, la lune disparaît ensuite, quelques heures plus tard. Il dit, oh, je n'aime pas, que Dieu ne me guide pas. Je ferai partie des gens égarés. Ensuite, il va voir le soleil. Il va dire, oh, le soleil, il est beau, il brille, il est encore plus grand que la lune. Eh bien, ça, c'est mon Dieu, il est encore... « Hada Rabbi, hada Akbar !»« Falamma afalat qala inni bari'um mimma tushrikun » Je suis innocent. Il va, grâce à cette réflexion, ancrer et enraciner la foi dans son cœur. Même, bien sûr, qu'il est sûr que Dieu est Allah Azza wa Jal, le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il va même interpeller Dieu pour dire, d'accord, je crois en toi, puisque je te parle. Et que toi, tu me réponds directement, ya Rabbi, mais je voudrais quand même que tu me prouves ta puissance, que tu me prouves ta capacité à ressusciter toutes les créatures qui sont mortes. Arini kayfa tuhyi al-mauta. Et là, Dieu lui parle et lui dit, n'es-tu pas croyant que ne penses-tu pas que je suis capable de ressusciter tous ces morts? Il dira à Sayyidina Ibrahim, قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. Je suis croyant, j'ai la certitude dans mon cœur, mais je veux apaiser mon cœur. Donc Sayyidina Ibrahim alayhi salam était dans cette quête d'apaisement constant. Il avait la foi, c'était un prophète imprégné de foi, on va dire qui était totale et parfaite et avec aucune incertitude possible, mais il était dans un environnement où il avait besoin psychologiquement de cette quiétude, de cette béatitude, et il va interpeller Dieu pour lui dire, montre-moi ta puissance, montre-moi que j'ai derrière moi un être puissant qui est capable de, à lui tout seul, d'affronter tous ces hommes, toutes ces puissances qu'il peut y avoir sur terre et qui peuvent me chercher du tort. Et effectivement, il lui dit, écoute, tu vas prendre 4 oiseaux. Il va dire, prends 4 oiseaux. فَخُدْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. Détruis-les, déchique-les, fais-en de la bouillie. Détruis-les et mets-les en confetti. Et ensuite, tu vas mélanger tout ça, les 4 oiseaux. Et après avoir mélangé les 4 oiseaux, tu vas les diviser en 4 parties et tu vas mettre chaque partie tout en haut d'une montagne. Et le Sayyidina Ibrahim va faire et va exécuter ce que Dieu va lui ordonner de faire. Il va prendre donc ces 4 parties de ces 4 oiseaux complètement déchiquetés et mélangés. Il va les poser en haut de la cime d'une montagne, et il va dire, maintenant appelle-les. Fad'uhunna ya Ibrahim ya'tinaka sahya. Elles s'élèvent dans le ciel, toutes ces parties déchiquetées, elles se reconstituent telles qu'elles étaient au début, et elles viennent vers toi, 4 oiseaux vivants entre tes mains et tels qu'ils étaient avant que tu les tues et avant que tu les déchiquettes comme tu l'as fait, Sayyidina Ibrahim. Et là, Ibrahim, effectivement, il va dire, ah oui, là, effectivement, la puissance de Dieu est incommensurable, est extraordinaire. Là, effectivement, je sais que je peux affronter même Nemrod, je peux affronter tous les rois et tous les puissants, et ils vont me jeter dans le feu. Et ils vont le jeter dans le feu, Sayyidina Ibrahim, dans un feu ardent, mais d'une température telle que les habitants ne pouvaient même pas s'approcher. On parlait de plusieurs centaines de mètres de ce feu-là, et qu'ils ont eu besoin de le catapulter pour pouvoir le jeter dans le feu, parce qu'il ne pouvait pas s'approcher du feu tellement il était brûlant. Et effectivement, il est jeté dans ce feu, et alors qu'il est dans le ciel, et que son corps se dirige droit vers la flamme, vers le foyer de feu, Sayyidina Jibril, l'archange Gabriel, avec ses 600 ailes et sa puissance, qui d'un seul coup, d'une seule aile, pourrait éteindre le feu, lui dit, Alaka haja, as-tu besoin de quelque chose? Mais Sayyidina Ibrahim, qui est imprégné de cette quiétude, imprégné de cette béatitude, de cette sérénité, il lui dit, Amma minka fala. De toi? Est-ce que j'ai besoin de toi? Dira Ibrahim à Jibril. Non, j'ai pas besoin de toi, ya Jibril. Il n'interpelle même pas Dieu. Il ne lui dit pas, ya Rabbi, najjini mina al-qawmi al-zalimin, comme l'a fait l'épouse de Pharaon, wa najjini min Pharaon wa amalihi, wa najjini min al-qawmi al-zalimin, comme l'avait fait auparavant, non, ou je sais pas, oui, c'était plus tard, va le faire l'épouse de Pharaon quand il va la tuer. Eh bien, Sayyidina Ibrahim, tout de suite, dès qu'il tombe dans le feu, Dieu directement s'adresse au feu et lui dit, Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh, feu, redeviens froid et paix.
Fraîcheur
et paix pour mon prophète, mon Khalil. Parce qu'il va l'appeler le Khalil, l'ami intime de Dieu. C'est le nom, le surnom de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ibrahim el Khalil, Ibrahim, l'ami intime d'Allah azza wa jal, qui n'a même pas besoin de demander à son Dieu de l'aider dans le sort dans lequel il est voué. C'est Dieu qui intervient parce qu'il sait que maintenant il est imprégné de paix et de sérénité. Et c'est ainsi que le croyant, quand il sort de chez lui, il dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nous dit le prophète que toute sa journée il sera protégé. Wuqiya wa kufiya. Il sera protégé, il se suffira d'elle-même pour qu'il puisse vivre en paix toute la journée. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant, je laisse la parole à Ali pour nous donner plus d'éléments.
Alors, Bismillah. C'est vrai que là, on a choisi un personnage, on a choisi du très, 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 très lourd.
Du très lourd, oui.
Ibrahim, alayhi salam, il y a tant à dire sur lui, mais c'est vrai que c'est une montagne. C'est une montagne. Alors après, c'est vrai que dans tous les exemples, vous savez, dans l'exemple quand il a été catapulté dans les cieux pour être jeté dans le feu et que Jibril vient lui proposer de l'aide et qu'il dit de toi non, je n'ai pas besoin de toi. Indirectement, il dit qu'il n'a besoin que d'un seul, en fait. Et il le formule pas directement, mais indirectement, il prouve sa foi. Parce que dans ce moment-là, si Jibril vient, on est bien content qu'il vienne, en fait.
Et c'est son état de sérénité.
C'est ça, de sérénité, de paix, mais de conviction.
Il sait que Dieu, il va intervenir.
Et de conviction, justement. Ouais. Et c'est pour ça que dans le fait de l'apaisement qu'il a recherché et qu'il a trouvé après avoir vu comment Dieu ressuscitait les morts avec ses oiseaux, il est rentré, en fait, dans tous les degrés de la certitude. C'est-à-dire dans la certitude, dans l'yakin, il y a trois degrés. Il y a le fait d'avoir l'information.
L'ilm al-yakin.
L'ilm al-yakin.
La connaissance de la certitude.
Puis après, il y a le fait de goûter, quoi, de vivre la chose.
Ayn al-yakin.
Ayn al-yakin, c'est le fait de le voir.
Ouais, de voir.
Après, il y a d'autres. Il y a
haqq al-yakin.
Et haqq al-yakin. C'est le fait de le vivre aussi. Et l'information. Et ces trois degrés-là, il les a vécus dans cette expérience, justement, où il a vu comment Dieu ressuscitait les morts. Donc, il croit. Et il a les degrés humainement suffisant de la certitude, parce que le troisième degré, on peut pas l'avoir tant qu'on n'est pas devant Dieu, justement, le jour de la résurrection. Mais là, il a eu ce privilège-là de vivre une expérience qui lui a permis d'atteindre ce troisième degré de la certitude et qui lui a donné cette foi qui était inébranlable. Et Ibrahim alayhi salam, dans son exemplarité, et d'ailleurs, autre chose, pardon, qui est aussi intéressante, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu lui ressusciter les oiseaux devant lui, mais il lui demande de faire des choses, des actes. Il lui demande de bouger. Il lui demande d'aller dans des montagnes. C'est physique le fait d'aller dans des montagnes et de redescendre. Mmh. Et c'est ce qu'on retrouve aussi après par la suite dans tous les rites du pèlerinage ou de la Umra, justement, où il y a des activités physiques. Et alors, il y a des moments où on va courir, il y a des moments où on va tourner autour de le Kaaba, il y a des moments où on va aller dans un lieu. C'est physique en soi.
Mmh. Et là, il y a le fameux Raml qui est trois tours autour de la Kaaba entre temps, c'est-à-dire en marche rapide. Hein, et puis il y a ce Harwala, qui est le fait de courir entre ce qu'on appelle en arabe Batn al-Wadi, qui est un endroit entre les deux monts Safa et le Marwa, où les musulmans vont carrément courir. Ils vont se mettre à courir le Harwala, et donc c'est effectivement extrêmement physique. On est dans une démarche.
Mais au pèlerinage, Imam Dali, on marche sur les pas d'Ibrahim.
Oui.
Et de sa femme Hajar.
Voilà. De sa femme Hajar. Voilà. C'est-à-dire donc, dans le rite du pèlerinage, dans le rite du Hajj ou du petit pèlerinage de la Umrah, on est justement dans la continuité des rites abrahimiques. On est dans la continuité du fait de se remémorer justement ce que Ibrahim alayhi salam a pu vivre et son cheminement et son exploration justement de la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le fait aussi de se rappeler de Dieu, parce que c'est le but justement du pèlerinage. Mais là où je voulais en venir par rapport au fait qu'il lui demande de gravir les montagnes, de poser les oiseaux, etc., c'est qu'il lui demande de faire des efforts physiques. Et on sait que dans l'effort physique, il y a des bienfaits. Il y a des bienfaits parce que justement il y a
pour le psychique, tu veux dire, pour l'âme,
au niveau neurologique déjà, c'est-à-dire que juste au niveau neurologique, les efforts physiques vont sécréter certaines hormones comme la sérotonine, comme la noradrénaline, pardon. On peut même sécréter de l'endorphine par la suite
reposer.
Alors l'endorphine, ça permet justement l'apaisement et le repos et ça permet d'atteindre aussi un bien-être. Mmh. Et la sérotonine elle va permettre de diminuer le stress.
Ce qu'on appelle l'hormone du bonheur.
C'est l'endorphine.
L'endorphine.
Mais la sérotonine, justement, elle va permettre de diminuer le stress. Et on voit que toutes ces productions hormonales amènent des bienfaits au niveau psychique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ouais, mais gravir une montagne, faire courir, tourner en courant, etc., c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Mais c'est un bienfait. Ça apporte quelque chose. Ça nous permet de diminuer le stress, ça permet de diminuer l'anxiété, c'est un antidépresseur aussi, d'une certaine manière. Alors, ça soigne pas la dépression majeure quand elle est cliniquement avérée, mais ça permet de diminuer justement et de combattre tous ces maux qui peuvent atteindre tous les êtres humains. Et c'est pour ça que par les activités physiques, que ce soit le sport ou par les rites religieux où il y a une activité physique aussi, on a des satisfactions et des bienfaits neurologiques qui permettent justement d'atteindre ce bien-être et ce bonheur qu'on recherche tous. Après, pour revenir sur le fait de tourner les trois premier tour, ça c'était pas par rapport à Ibrahim, par contre c'était
pour montrer que la vigueur et l'énergie qu'avaient les musulmans,
les compagnons,
pour contredire ceux qui pensaient que Médine était une ville de toutes les maladies. Et le prophète a voulu montrer, et c'est ce qu'on appelle aussi avec le Raml, il y avait le ittiba', c'est-à-dire le fait de dévoiler l'épaule droite.
Oui, pour montrer qu'ils n'étaient pas malades.
Voilà, ils avaient des corps robustes. Mmh. Et donc, ils montraient. Et c'était le côté droit, c'est-à-dire le côté extérieur.
Qui voyait les gens.
Qui était vu, voilà, par les Quraysh, notamment pendant la Umratul Qada. La Umra qu'ils ont accompli l'année qui a suivi le Hudaybiyah, le fameux accord de paix, l'année 7 de l'Hégire, où il y a eu cette Umratul Qada, où les Kuffars ont pu voir les musulmans dans leur vigueur, dans leur sérénité, dans leur paix. Et c'est pendant cette année-là où il y a eu le plus de convertis. et les hommes les plus importants de l'histoire de l'islam se sont convertis cette année-là. Vous avez Abu Huraira, le plus grand rapporteur de hadith. Vous avez Khalid ibn Walid, hein, le grand conquérant. Vous avez Amr ibn al-As, Dahiyatul Arab, Dahiyatul Quraysh, hein, le stratège des habitants de Quraysh. Hein, c'était le diplomate par excellence. Donc tous les personnages clés de la propagation de l'islam et de la conservation des sources de l'islam, eh bien, se sont convertis cette année-là, l'année 7 de l'Hégire.
Bien, vous savez que cette émission est en trois parties. Dans un instant, vous pourrez bien sûr intervenir, poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun et à Ali Habibi qui est là ce matin. Je rappelle le numéro du standard de l'islam au présent, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Heures, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Imam Abdelali, nous avons invité aujourd'hui Ali Habibi qui est avec nous. Alors, Ali Habibi, vous allez partir très prochainement à la Omra. C'est ce qu'on appelle maintenant des Omra thématiques en fait. Hein. Donc, oui. Le principe c'est qu'on profite de la Omra pour avoir. Déjà des guides et des accompagnateurs, et en plus pour avoir un accompagnement spirituel et faire des conférences.
C'est ça.
C'est deux en un, en fait.
C'est deux en un ou un en plusieurs. D'une pierre, on fait plusieurs coups. Donc, alors, le principal et l'essentiel et l'objectif premier, c'est le fait de faire la Umrah et de se rappeler de Dieu et d'accomplir les rites. Ce qui, comme on l'a dit tout à l'heure, apportera au-delà du côté spirituel et religieux une augmentation de foi, mais au-delà de tout ça, bah, ça peut aussi apporter au niveau psycho et au niveau santé beaucoup de bien-être. Par la suite, ce qu'on propose nous, c'est alors au-delà des visites de tous les lieux, etc., historiques, il y a un accompagnement religieux et psychologique. Donc c'est pour ça qu'il y a un imam plus un thérapeute où on fera des interventions quotidiennes. Sur le fait de cheminer vers Dieu seul, en couple ou en famille. Alors on a bien distingué les trois.
Faut expliquer.
C'est parce que voilà, en couple et en famille, c'est clair, mais étant donné que bien évidemment.
Alors moi, je comprends pas, quand vous dites en couple et en famille, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de familles qui partaient à la Omra.
Oui, ça arrive souvent.
Imam Abdelali, c'est courant que les familles, que les gens partent à la Omra en famille.
Ah oui, surtout la Omra. Le Hajj non, mais la Omra oui. La Omra, c'est souvent en famille. Les gens emmènent avec eux leurs enfants puisqu'il n'y a pas trop beaucoup de monde. Ils choisissent une période où il fait pas trop chaud,
notamment. Et financièrement, c'est un peu plus accessible.
Février, mars, le printemps et l'hiver sont des moments propices pour faire la Omra.
Et c'est des très bons séjours. Hein.
Pour les familles,
c'est super. Ça les rapproche, ça les aide justement à vivre un grand moment ensemble. Ça les rapproche de Dieu ensemble, justement, d'où le sujet. Oui. Parce que cheminer vers Dieu en couple et en famille, il faut le comprendre dans le sens où comment en couple, je peux cheminer en Dieu à l'intérieur du couple, mais avec mon couple. Et dans la famille, à l'intérieur de ma famille, puis avec ma famille. Quelle que soit la famille que je puisse avoir, hein, j'ai une superbe famille. Comment faire que cette superbe famille m'aide à me rapprocher de Dieu et me rapprocher de Dieu avec elle? Et si j'ai une famille moins superbe où c'est compliqué pour moi avec différentes épreuves, comment justement faire en sorte que malgré la famille dans laquelle je suis, je puisse cheminer vers Dieu? Et seul, parce que justement dans la Ramla, on n'aura pas que des couples et des familles, il y aura aussi des personnes qui viennent seules. Et ça les concerne aussi parce que le cheminement vers Dieu se fait seul, mais aussi en interaction par rapport à ce qui nous entoure, et le couple et la famille, et justement un contexte qui peut nous entourer.
Bon, vous avez choisi une période de beaucoup de ponts, puisque vous partez
du 3 au 14
mai, il y a beaucoup de ponts à ce moment-là.
Donc il vous reste beaucoup de place, Ali ?
Oui, il reste des places, et donc voilà, c'est un séjour du 3 au 14. Alors normalement, c'est pas la période de vacances parisiennes.
Non, c'est pas des vacances, mais il y a les ponts. Il y a les ponts du 8 mai, là, vous avez.
8 mai, il y a le 11, non, il y a pas un autre pont après, c'est. Il y a que le 8.
Il y a le pont d'Avignon aussi.
Ouais, ça c'est pour danser.
Mais à ce qui paraît, on y danse tous en rond.
Ouais, on peut tourner en rond, hein, autour de la Kaaba aussi. mais pas à Avignon.
Voyez ce que je vis, Ali, tous les samedis. C'est pas facile, toujours.
C'est pas facile. Non,
Donc du 3 au 14 mai.
Non, je voulais savoir s'il y avait un autre jour férié.
Regardez sur votre.
Je sais pas, j'ai pas fait attention.
D'accord.
J'ai pas fait attention s'il y avait un autre jour férié ou non, mais.
C'est bien.
C'est une bonne période aussi.
Bien, alors.
Et c'est qui est juste avant Ramadan, parce qu'on revient le 14.
Vous arrivez.
Et donc, c'est une bonne préparation aussi pour Ramadan, et on revient donc un ou deux jours avant Ramadan. Mm-hmm. Inch'Allah.
Moi, j'avais fait une fois une Umrah à cheval, avant et pendant le Ramadan.
Le pauvre cheval.
Non, c'était pas un cheval.
C'était un éléphant, non?
C'était... Oh, c'est pas gentil, Philippe.
Un chameau, c'est mieux.
Je suis pas gentil. En fait, c'est l'imam Abdelali qui portait le cheval.
Non, mais parce qu'il croit que je suis celui qui part en Indonésie tous les 15 jours pour aller frotter le dos
aux éléphants.
Faire des massages aux éléphants. Non, Philippe, moi, c'est plutôt le chameau. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup là-bas en Arabie Saoudite. Rien que la Umrah que j'ai fait au mois de février, on est monté à Taïf. On a eu l'opportunité de manger du chameau, de boire du lait de chameau, etc. C'est pas mal, hein. C'est sympa. C'est sympa de monter à Taïf, justement, dans cette fameuse ville où est-ce qu'il a été très mal accueilli, de rentrer dans le Hadithat ibn Rabi'a et de voir l'endroit où est-ce que le prophète a levé les mains au ciel et imploré l'aide de Dieu et dans lequel il était dans un état d'angoisse et de stress.
Il avait besoin d'apaisement.
Et il a été apaisé par l'Isra ou al-Mi'raj, par cette ascension céleste au-dessus des sept cieux et par justement pour chacun d'entre nous la possibilité de vivre cette même élévation spirituelle qui est les cinq prières quotidiennes. Et le croyant avec Ali inchallah, chaque pas qu'il fait autour de la Kaaba, c'est comme si qu'il gravite une marche qui l'élève vers les sept cieux. C'est pour ça qu'il y a sept tours autour de la Kaaba. Chaque tour lui permet de s'élever d'un ciel pour arriver jusqu'au septième ciel et vivre ce qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam quand il est venu devant Allah azza wa jalla et que Dieu d'abord il s'est adressé à Dieu, il l'a poliment salué en disant at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. Les salutations, les bontés, les puretés sont à Dieu. Dieu va lui répondre et va lui dire assalamu alayka ayyuhan nabi. Hein, salutations à toi, ô prophète, et la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, le prophète se tourne autour du trône de Dieu et voit des anges d'une taille immense, tous prosternés depuis très longtemps. Et il dit assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Les salutations sont à nous et à toutes ces créatures pieuses et vertueuses qu'il y a autour de toi, ô Seigneur. Et donc, voilà ce que vit le croyant. Quand il est dans sa prière, il vit l'élévation, le mi'raj du prophète alayhi salatu wassalam que Dieu lui a fait don après cette visite de Taïf.
Bon, on m'a posé une question, effectivement. Oui, il y a un autre jour férié, donc non seulement il y a le mardi 8 mai, mais vous avez le jeudi 10 mai qui est férié, puisque c'est le jeudi de l'Ascension. On va pas beaucoup travailler cette semaine du mois
c'est
de
bien.
Mai, j'ai l'impression.
C'est parfait pour ceux qui vont faire des ponts et tout ça, c'est bien.
C'est pas un pont, c'est une autoroute, hein, je peux vous dire. C'est
un viaduc, tu veux dire.
Ouais, c'est une année sabbatique, là. Alors, Ouria nous appelle de Saint-Étienne au 01 53 48 3000. Bienvenue, Ouria.
Oui, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh.
Wa alaykoum wa salam.
Ma question, voilà, je suis grand-mère, j'ai deux petits-enfants, et quand je fais ma prière, ils sont sur mes genoux, et je suis obligée de les garder, parce qu'ils descendent, ils montent, je suis handicapée, donc j'ai des problèmes de santé, donc je la fais à la prière assise, et quand j'entends ce que vous dites, est-ce que je suis assez concentrée ou pas? Et je trouve que je suis pas assez concentrée, parce qu'en même temps, j'ai les yeux et les oreilles sur les enfants, qu'il leur arrive rien.
Madame, le fait d'être dans une attitude de miséricorde et de bonté à l'égard de vos petits-enfants, de leur montrer de l'affection alors que vous êtes dans la prière, vous êtes dans cette démarche de spiritualité et d'élévation vers Dieu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, priait avec, dans ses mains, Umama bintu, Zainab bintuhu, alayhi salatu wassalam, sa petite fille, Umama, qui s'appelait Umama, qui est la fille de Zainab, il priait avec elle dans ses bras, il la tenait dans ses bras, il ne la posait au sol que seulement quand il était prosterné et il la reprenait dans ses bras, alors que c'était un enfant en bas âge. Et est-ce que ça diminuait, sa concentration? Non. Puisque cet acte d'affection qu'il faisait et qu'il accomplissait pour sa petite fille est un acte de piété, est un acte d'élévation, est un acte spirituel. Donc continue à le faire et c'est indissociable. La bonté et l'affection que vous faites, que vous vivez au quotidien est un acte d'élévation et un acte vertical. Ilaqa amoudiya ma'a rabbil alamin, avec votre créateur Allah Azza wa Jalla. Donc les deux sont liés, les deux sont intimement liés. Je suis à la fois dans l'iman et je suis à la fois dans l'amal salih. Alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tatma'innu qulubuhum. Et grâce à cela trouve cette béatitude, cette quiétude et cette sérénité. Vous le vivez dans les bonnes actions. C'est un des chapitres que je n'ai pas pu développer tout à l'heure, c'est que se regarder le soir avec une conscience tranquille, d'avoir accompli des bonnes actions tout au long de la journée, est une source de paix et de sérénité.
Et ça augmente la confiance en soi.
Quelqu'un qui, au contraire, fait des exactions, des actes de méchanceté, vous croyez qu'il dort sereinement le soir? Est-ce que vous croyez que ce gars-là a un cœur apaisé? Il a un cœur qui vit dans l'anxiété et dans le malheur. Dieu dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui se détourne de mon rappel et qui commet des actes de turpitude, eh bien, vivra une vie pleine de calvaire, de tourments, de calamités. Il sera dans l'angoisse et dans l'anxiété constamment. Eh bien, c'est dans la bonté, dans la bienfaisance que l'on trouve aussi, et bien entendu, que l'on vit pleinement cette béatitude. Faites du bien, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien. C'est indissociable. Quand vous voyez un pauvre, vous lui donnez une petite sadaqa, regardez, dans l'état dans lequel c'est vous qui donnez, qui recevez plus que vous donnez. C'est vous qui allez profiter de ce don plus que ce pauvre va prendre. Vous allez ressentir une satisfaction, une plénitude extraordinaire.
Voilà, Ourya, ce qu'on pouvait vous dire. Merci pour votre appel. Lazare est au 01 53 48 3000. Bienvenue, Lazare.
Merci, bonjour messieurs, salam alaikum.
Alaikum salam.
En fait, j'ai une question qui, j'espère, n'est pas hors sujet. Par rapport à ce que j'ai expliqué, je vais y arriver, Imam Abdelaziz. En fait, j'ai toujours entendu dire que Sidna Moussa, alayhi salam, était Kalimullah. Et là, en écoutant Ibrahim Khalil discuter avec Dieu, parler à Dieu, et Dieu lui répondait. Donc voilà.
C'est pas, j'ai pas inventé, hein. وإذ قال إبراهيم يا ربي أرني كيف تحيي الموتى Dieu dit, répond, il dit قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. C'est pas moi qui l'invente, c'est le Coran qui parle. Il dit قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ يَطْمَئِنَّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ. Dieu dit, prends, ya Ibrahim, quatre oiseaux, etc., déchiquetelés, et pose chaque divise partie dans une montagne. C'est pas moi qui l'invente, effectivement.
Dieu a parlé
à Sayyidina Moussa alayhi salam sur le mont Sinaï, effectivement, c'est vrai, hein. قال انا ربك فخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. Certes, Dieu est Sayyidina Moussa est le Kalimullah, mais on sait que Khalilullah, Sayyidina Ibrahim, a un degré supérieur à Sayyidina Moussa alayhi salam, que c'est le patriarche des prophètes, il est le père par excellence de tout Abul Anbiya alayhi salam wa ala nabiyyina afdalu salati wa azka taslim.
Le juste pour rajouter un petit complément à Lazare, le fait que Ibrahim alayhi salam ait pu parler directement à Dieu ne remet pas en cause le fait que Moussa alayhi salam lui ait parlé aussi. C'est des attributs ou des comme des titres qui sont donnés pour distinguer aussi les prophètes. Moussa alayhi salam, c'est justement celui qui a parlé à Dieu, mais c'est pas le seul qui a parlé à Dieu. Vous voyez, et le Khalil, c'est un degré supérieur. Il faut savoir que le Khalil, c'est au-dessus de Sohba, c'est au-dessus de l'amitié. C'est pour ça que même l'ami intime, c'est pas une superbe définition. Le Khalil, dans la langue arabe, c'est entre deux humains, c'est celui avec qui vous pouvez tout faire sauf ce qui est interdit. C'est-à-dire que si, par exemple, l'imam Abdelali, c'est mon Khalil, je sais que il peut acheter et vendre pour moi. Je sais que si je meurs, il peut prendre soin de ma famille sans aucun problème. Mmh. L'ami, il va m'aider, mais il y a des limites. Al Khalil, il n'y a pas de limite, sauf ce qui est interdit. Et il faut savoir que...
Alors que le Habib, qui est un degré plus grand,
exactement,
qui est le degré du prophète Mohammed Sallam, lui, il a le droit de faire même ce qui est interdit, mais il n'a jamais eu envie de le faire.
Exactement.
لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Et la preuve qu'Allah Azza wa Jalla dit à son prophète, fais ce que tu veux,
mais
tu seras pardonné.
Mais justement,
il n'a jamais rien fait de mal.
Le prophète, son titre, c'était Habibullah, voyez, le bien-aimé. C'est un degré qui est supérieur à le Khalil encore. Mais le prophète, alayhi salam, était aussi le Khalil de Dieu. Ouais. Il dit dans un hadith, si je pouvais prendre un humain comme Khalil, j'aurais pris Abou Bakr, mais j'ai Dieu comme Khalil. Et ouais, donc, j'ai pas besoin des humains.
Alors, Ali Habibi, vous partez à l'Omra, donc, du 3 au 14 mai 2018, pour ceux qui ont envie de faire ce voyage inoubliable. Oui. Il y a un numéro de téléphone.
Oui. Alors, le numéro pour pouvoir avoir plus d'infos ou pour réserver est le 07 56 88 91 01.
Alors, l'imam Abdelali, qui a beaucoup d'expérience en la matière, vous dira qu'il faut répéter le numéro.
Oui, 07.
J'ai pas pris mon stylo, hein, Ali. Laisse-moi prendre le stylo.
Je répète.
Alors, 07.
Prends ton stylo.
Voilà, prends le stylo. 07.
07 56 88 91 01. Donc, pour pouvoir réserver, avoir plus d'infos.
Attends, j'ai pas réussi à écrire tout. 07 56.
07 56 88 91 01.
Voilà. Toutes les informations sont sur votre page Facebook. Hein,
vous avez ou sur le site internet, vous avez justement un article avec toutes les informations sur les conditions et ce qui est proposé et le lien pour pouvoir aussi réserver.
Voilà, la saison du Hajj est commencée. Donc Imam Abdelali, vous organisez le Hajj.
Ah, ça c'est le Hajj. Moi, ce que Ali organise, c'est une Umrah du 3 mai au 14 mai. Ceux qui veulent vraiment vivre et préparer le Ramadan et vivre ce moment intense de spiritualité et de bien-être psychologique, eh bien allez-y. Moi, je vous invite à y aller avec. Avec Sayyidina Ali, j'allais dire Sayyidina Ali. Masha'Allah, Sayyidina Ali, Inch'Allah, ou Sayyidina Ali. Bon, alors pour le Hajj, effectivement, c'est un autre numéro, le 06 29 25 35 00, tout le monde le connaît. Le numéro pour le Hajj, 06 29 25 35 00. Voilà, salamu alaykoum.
Tout le monde connaît votre numéro. D'ailleurs, les gens, quand ils me disent bonjour, ils disent votre numéro de téléphone. Ali, vous travaillez lundi, oui?
Oui, je travaille lundi.
Oui, lundi, on fait de la radio.
Oui, on fait de la radio, mais c'est juste pour dire que par rapport au numéro que j'ai donné, s'il tombe sur le répondeur, qu'il a sa message et ils seront rappelés. Mais sinon, oui, on se voit lundi.
Maître Serran est là dans un instant.
C'était l'Islam au présent. Avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Sur Beurre FM.